Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal, Jostine Moussa Opondé.
Pensée Chebea, c'est la conclusion des débats aujourd'hui avec les plaidoiries des parties civiles et prévenues. Le ministère public fera également son réquisitoire avant les répliques des parties ainsi que le prononcé du verdict. 18 morts après une attaque des miliciens à Codeco hier près de Mongualou en Ituri. Elle intervient un jour après celle d'Abombi ayant coûté la vie à 19 personnes. Notre invité est Rigobert Malalako, secrétaire exécutif national de la Fédération des radios des proximités du Congo. Avec lui, nous allons évoquer les problèmes spécifiques qui touchent les radios communautaires. Bonjour à tous. C'est aujourd'hui mercredi que la haute cour militaire entame le dernier virage de débat au procès du double assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana. Les parties civiles et prévenues feront les plaidoiries pour ainsi conclure les débats. Puis le ministère public fera son réquisitoire suivi des répliques des parties avant le prononcé du verdict. Tout au long de ces débats qui se clôturent, plusieurs personnes ont défilé devant la barre sous divers statuts. Un petit rappel avec vous, Jeff Ngoy.
Sur les 9 personnes à la barre, 3 sont des prévenus et 6 autres des renseignants. Le major Paul Mouilambo est prévenu d'association de malfaiteurs, terrorisme et désertion simple. Jacques Mugabo est également prévenu de mêmes infractions, mais en y ajoutant l'enlèvement transformé en assassinat. Christian Ngoyi Kenga, donneur des ordres et chef du bataillon Simba de la police, selon les dépositions des prévenus, a comme prévention l'assassinat, la désertion simple et la détention d'armes et munitions de guerre. Il a refusé de comparaître après ses premières dépositions. Jean Simulanga, Doudou Ilunga, Eric Kibumbe, le colonel Daniel Mukalai, le général Zelo Djadjidja et son subalterne Katebere sont tous des renseignants. Après l'actuel procès, un autre aura lieu prochainement et où comparaîtront comme prévenus Zelo Djadjidja et Katebere. D'autres prévenus en cavale, Alain Kayeye, Bruno Souti et Ergile Ilunga, sont aussi poursuivis pour le deuxième dossier au prochain procès qui devra recevoir des généraux et des personnalités citées.
En bref, le président de la République a nommé hier mardi 3 ambassadeurs et le secrétaire général de la présidence. Ainsi, Fidel Moulaja est nommé ambassadeur de la RDC en Afrique du Sud. John Nyakeru est le nouvel ambassadeur de la RDC au Kenya. Ivan Vangu est désigné ambassadeur de la RDC en Russie. Jean-Jacques Luboya Tshishima a quant à lui été nommé secrétaire général de la présidence. Rendons-nous à présent en Ituri où une nouvelle attaque des miliciens Codeco de la faction Bon Temple des Dieux a fait 18 morts hier mardi au village de Siri à Belkoz, proche de Mongualou. Selon des sources concordantes, plusieurs autres personnes sont blessées et d'autres ont été enlevées ou sont portées disparues, ce qui pourrait alourdir le bilan de cette attaque qui intervient un jour après celle d'Abombi qui a coûté la vie à 19 personnes. Isaac Remoyope nous en parle.
Ces miliciens se sont introduits mardi matin vers 4h au village appelé Siri à Belkoz pour commettre des exactions sur des paisibles populations. 18 personnes ont péri, dont 5 kafas et 6 femmes, affirment des sources de sécurité. 6 autres personnes ont été blessées pendant l'incursion de ces hommes armés et 15 corps qui gisaient au sol ont été retrouvés dans cette localité. Certains habitants qui tentaient de fuir ont été pris en otage par ces hors-la-loi. D'autres sont portés disparus. La société civile locale indique que les fouilles se poursuivent pour identifier toutes les victimes. Cette structure citoyenne déplore l'absence des phares d'essai dans cette entité, ce qui justifie l'ampleur de ces dégâts enregistrés. Presque toute la population a trouvé refuge dans la commune rurale de Mongualou. Ces assaillants se sont retirés dans leurs bastions aux carrières minières des Digene et des Dungu. Les forces loyalistes sont arrivées après l'incident. Pour rappel, 37 personnes sont mortes à l'espace de 2 jours dans cette zone où le groupe armé Codeco a intensifié ses attaques. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Au sud Kivu, les phares d'essai de la 12e brigade de réaction rapide sur l'axe Minembwe ont repris depuis le lundi 14 février le contrôle de la colline de Koet, située dans le groupement de Bijombo, dans les hauts plateaux du territoire d'Uvira. C'est après des violents combats qui les ont opposés aux combattants présumés Tuiraneo et alliés dans cette région. Le porte-parole des FARDC à Minembwe avance un bilan d'une arme de type Kalachnikov récupérée de main des assaillants. Fiston Goma nous en dit plus.
Les assaillants, identifiés comme des combattants turwanéo et alliés, se sont retirés de cette colline appelée communément Kowet, aux environs du village Karunga, au nord-ouest de Minembwe, à 2 heures de marche vers Kamombo. La semaine dernière, ils avaient attaqué une position des FRDC située sur cette colline, obligeant les troupes loyalistes à se retirer vers le camp des déplacés internes à Bidjombo. Les porte-parole de la 12e brigade des FRDC basée à Minembwe, le lieutenant Meyagbo et Jérémy, soulignent que Kowet a été repris après d'intenses échanges de tirs. Pendant ces temps, d'après la même source, les troupes loyalistes ont intensifié les patrouilles dans la région. Par ailleurs, le commandant de la 12e brigade de réaction rapide, le général de brigade Opiambonda Miundombe Patrick, a reçu en audience ce même jour la visite de la délégation du CICR conduite par Madame Sabrina. Ils ont échangé sur la situation sécuritaire dans la région des Hauts Plateaux ainsi que sur la sensibilisation sur le droit international humanitaire. L'objectif est de faire comprendre aux troupes des FRDC la conduite à tenir avant, pendant et après les différentes opérations militaires effectuées dans la région. Le CICR a porté la connaissance de l'armée à Minembwe, le quelques procédés civilo-militaires, parmi lesquels l'évacuation des blessés de guerre de part et d'autre. Douvira Fiston Momayaba, la Radio Okapi.
Au Nord Kivu, la résurgence de l'activisme des groupes armés inquiète les animateurs du programme des désarmements, des mobilisations, relèvements communautaires et stabilisation, PDDRC. C'est le cas, entre autres, d'au moins 4 groupes armés actifs dans les territoires de Rutshuru, Walikale et Masisi. Ces derniers estiment que cette situation risque d'annihiler toutes les actions déjà menées dans le cadre de sensibilisation de groupes armés à la reddition volontaire. Plus de précisions avec Bernard Denyangui.
Ces animateurs du programme PDDRCS parlent notamment du groupe Alliance des Forces de Résistance Congolais, AFRC, qui vient d'investir depuis quelques jours la localité de Nyamititu dans le groupement Binza, territoire de Rutshuru, sous le commandement d'un certain Kadima, alors que le chef de ce groupe, Kakou Legetem, venait juste de recevoir sa carte de démobilisation la semaine dernière. Il y a aussi les deux factions des NDC rénovées, El Bouira et Guidon, qui s'affrontent à nouveau dans le secteur Osobanyungu, aux alentours de Nyabiondo, territoire de Masisi. Pendant que le groupe de Kabidon FPPAP et celui de Guidon, le NDCR, s'affrontent depuis plusieurs jours dans la zone de Ikobo, en territoire de Walikale. Selon un des coordonnateurs provinciaux ad intérim de PDDRCS à Goma, tous ces groupes avaient déjà été sensibilisés à la reddition volontaire et avaient déjà sorti nombreux de leurs combattants de la forêt. Mais pour M. Katembo Jacques, par suite du retard que prend le lancement de l'opération proprement dite de démobilisation et réinsertion, ces groupes reprennent encore la violence. Goma, Bernardin Yangi, Radio Okapi.
Et dans le cadre de la recherche de la paix et du retour de la sécurité dans la région de Beni, l'ONG féminine Femmes Congolaises pour le développement féconde en sigle appelle les autorités tant civiles que militaires à impliquer les femmes pour sa coordonnatrice. Considérer la femme comme partenaire en matière de sécurité peut être utile. Madame Julienne Nchila est au micro d'André Kitenge.
Tout en encourageant les efforts fournis jusque-là, mais nous demandons encore à nos autorités militaires et policières et au gouvernement en général de fournir des efforts, de se rapprocher plus de la population de la base et surtout de conjuguer avec eux, de ne pas les considérer eux comme des ennemis et surtout de se rapprocher des femmes. Parce que c'est cette femme-là qui met au monde ces militaires-là. C'est cette femme-là qui met au monde les récalcitrants, les bandits. C'est cette femme-là qui peut aussi cacher les bandits. Alors, si vous collaborez avec elle, vous la considérez comme un partenaire dans la matière de sécurité, cette femme peut vous fournir des informations fiables qui aideront peut-être pour la piste à suivre. Et parfois, les pistes que les femmes donnent, ce sont des pistes vraies. Pourquoi la femme? Parce qu'elle est aussi victime de toutes les atrocités. Tout tombe sur le corps de la femme, sur la vie de la femme et même sur l'esprit de la femme.
Restons à Beni, mais cette fois pour parler de cette réaction du député national Kiro Tsongo Grégoire. Il dénonce la multiplication des taxes, des péages, routes clandestines sur les axes routiers Beni-Kassindi, Beni-Mangina et Beni-Komanda. Le secrétaire général du RCD-KML, qui vient de clôturer ses vacances parlementaires dans la région, parle de situations mal perçues par la population déjà paupérisée par l'insécurité. Toutefois, il précise que la mutualisation des forces entre les armées congolaises et ougandaises est soutenue par la population qui attend le retour de la paix dans la région de Beni. On écoute les députés Kiro Tsongo Grégoire au micro de Martial Papi Mukeba.
Pendant mes vacances parlementaires à Beni, j'ai rencontré plusieurs couches de la population. Outre la pauvreté qui gagne du terrain du fait de l'insécurité, mon constat peut se résumer comme suit. La mutualisation des forces entre les FRDC et l'UPDF est bien accueillie par la population qui est impatiente de retrouver la paix. La population réclame un procès des EDF et de leurs complices arrêtés et détenus depuis des semaines, voire des mois, notamment à Kinshasa. Cette même population se plaint aussi de l'insécurité urbaine, de la multiplication des taxes dans un contexte où le pouvoir d'achat a sensiblement baissé, ainsi que de la prolifération des sortes de péages clandestins sur les axes routiers Beni Kassindi, Beni Mangina et Beni Komanda. Ceci a comme conséquence une perception négative de l'état de siège par la quasi-totalité de la population, qui déplore aussi l'absence d'un dialogue permanent avec les autorités municipales de Beni. Il est important que ces autorités se penchent sur ces questions pour que la population continue à accompagner l'État dans sa lutte contre l'insécurité dans la ville de Beni.
Toujours au Nord Kivu, mais dans un autre chapitre, la société civile de Kamandi dénonce l'arrestation d'une vingtaine d'agriculteurs par les éco-gardes de l'ICCN dans la région des Ndouali, sur la côte ouest du lac Édouard, au sud de Lubero. Les faits remontent à une semaine. Selon cette structure citoyenne, il est reproché aux agriculteurs d'avoir violé les limites du parc en accédant à leurs champs. La société civile locale ainsi que les autorités coutumières demandent au gouvernement de résoudre ces problèmes qui perdurent. Grâce à Mzati, nous
Au début du mois de décembre de l'année dernière, les négociations avaient eu lieu à Goma entre l'administrateur du territoire de Lubero, les autorités de l'ICCN ainsi que la communauté locale, à l'issue desquelles un moratoire avait été trouvé autorisant les agriculteurs à procéder uniquement à la récolte dans les champs. Ce moratoire étant expiré le 31 janvier, les agriculteurs sont de nouveau chassés de la zone d'Endouali. La société civile locale dit craindre les conséquences de cette décision sur le plan économique et alimentaire, étant donné que la population de cette région ne vit que de l'agriculture. Sami Sakoumi, président de cette structure citoyenne.
Les éco-gardes de l'ICCN sont en train de tracasser, de torturer, de violer et arrêter les agriculteurs sur la côte ouest du lac Édouard. Ils ont déjà arrêté plus de 22 personnes et une maman âgée de 45 ans a été violée par ces mêmes éco-gardes en Douali.
Tous ces faits sont confirmés par le chef de la localité de Moussouti Kamandi qui a déploré et condamné le cas des viols. Contacté, Olivier Mugisha, communicateur de l'ICSN, a promis de réagir ultérieurement. Pour sa part, l'administrateur intérimaire du territoire, le commissaire supérieur principal Komaya Joseph, dit vouloir initier de nouveau des négociations avec les parties prenantes pour tenter de trouver une solution provisoire en attendant une qui soit durable. Butembo, grâce à Mzati, Radio Kapi.
Les paysages forestiers connaissent une dégradation rapide dans la province du Maniema, constat fait par une équipe des acteurs œuvrant dans le domaine de la protection de l'environnement lors d'une mission d'évaluation. C'est ainsi que le gouverneur intérimaire du Maniema a lancé lundi à Kindu le processus de la méthodologie d'évaluation des opportunités et la restauration des paysages forestiers. Ceci rentre dans les cadres de la mise en œuvre du programme de maintien de la biodiversité et de la gestion durable des forêts exécutée par la GIZ dans son projet PIRED Maniema. Florence Kizalunga, reportage.
Dans son mot, les chargés des programmes de l'Union internationale pour la conservation de la nature a fait savoir que la méthodologie d'évaluation des opportunités est un outil qui permettra la transformation de la zone. Endamana Dominique.
La meilleure est donc un outil de planification, tout ce qui peut être impliqué dans ce processus d'évaluation. Dans les 6 mois qui viennent, nous serons en mesure d'avoir un document complet et bien sûr, toutes les parties prenantes vont utiliser ce document pour que le travail de restauration soit un travail optimal dans la province.
Les participants ont émis le vœu de voir à tout ceci être mis dans le cadre de politique congolaise.
Avec le processus que nous avons ici, il se pose d'énormes problèmes. On peut avoir la matière telle que nous venons d'avoir ici. C'est comme moi, je considère cela comme étant un véhicule avec de bons experts, de bons formateurs que je considère comme étant des conducteurs. Mais si la route n'est pas bonne, le véhicule ne va pas avancer. Pour moi, il faut maintenant prendre tout ça, mettre dans le cadre des politiques congolaises pour que ça puisse bien marcher. Et ainsi, il n'y aura pas de partis qui seront mis à l'écart.
Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le Canada a annoncé hier l'assouplissement des restrictions sanitaires à ses frontières et notamment la fin de l'exigence d'un test PCR pour entrer dans le pays. Il est temps d'ajuster notre approche. Nous assouplissons aujourd'hui nos mesures aux frontières, a déclaré Jean-Yves Duclos, le ministre canadien de la Santé. Le pays a aussi levé sa recommandation d'éviter les voyages à l'étranger. Et puis, le gouvernement néerlandais a également annoncé hier la levée le 25 février prochain de la plupart des restrictions sanitaires aux Pays-Bas, le pays enregistrant une baisse des hospitalisations et des contaminations. Le pays ouvre à nouveau, a déclaré lors d'une conférence de presse le ministre néerlandais de la Santé. Vendredi prochain, nous reviendrons aux heures de fermeture normales, a-t-il ajouté.
L'invité.
La journée mondiale de la radio a été célébrée le 13 février dernier. En marge de cette commémoration, la Fédération des radios des proximités du Congo, en collaboration avec Internews, a organisé lundi à Kinshasa un café de presse autour du thème « La viabilité économique des radios communautaires, défis et développement ». Pour évoquer les problèmes spécifiques qui touchent les radios communautaires ou des proximités, nous recevons dans ce journal le secrétaire exécutif national de la Fédération des radios des proximités du Congo, Rigobert Malalako, s'entretient avec Fulbert Balolagué.
Rigobert Malalako, bonjour.
Bonjour, Monsieur Fulbert.
Nous venons de célébrer la journée internationale de la radio autour du thème « La viabilité économique des radios communautaires, défis et opportunités ». Pouvez-vous nous expliquer la viabilité économique pour les radios communautaires ?
Nous, au niveau de la RDC, surtout au niveau de la Fédération des radios de proximité du Congo, nous avons estimé parler de la viabilité économique des radios de proximité. Pourquoi ? Parce que, étant donné que le thème central est radio et confiance. Pour que les gens aient confiance à la radio, il faut une production de qualité. Il faut des informations vérifiées, traitées et puis bien diffusées. Or, pour faire tout ce travail-là, il faut des moyens. Les moyens, donc, il faut de l'argent. Et il faut une certaine viabilité économique de nos radios. C'est ça qui a fait que, au niveau de la fédération, nous puissions réfléchir dans ce sens-là pour pouvoir réunir les professionnels des médias en général et ceux des radios communautaires en particulier pour réfléchir sur la viabilité économique des radios. Je confirme d'abord que les radios communautaires sont beaucoup plus disséminées à l'intérieur du pays. Elles sont implantées dans des milieux pauvres où les gens n'ont pas assez de moyens. Alors, pour produire, il faut des moyens, comme je venais de le dire. Mais dans le milieu où elles sont implantées, il faut nécessairement une certaine viabilité. C'est pourquoi nous avons estimé qu'à travers cette rencontre où on a associer le gouvernement, les partenaires, que nous soyons écoutés, que l'on sache quand même que les radios communautaires, même si elles ont des difficultés à fonctionner, mais nous pensons à une certaine viabilité économique de ces radios pour leur pérennisation.
Quelle est la part du gouvernement pour que les radios communautaires deviennent viables?
La part du gouvernement est à plusieurs niveaux. Nous souhaiterions d'abord qu'après les états généraux de la presse, que l'État congolais puisse reconnaître la spécificité des radios communautaires. Nous avons des problèmes parce que nous sommes des radios citoyennes. Nous voulons bien payer l'impôt et les taxes. Mais malheureusement, nous sommes mis au même diapason que les radios publiques qui payent des millions à titre d'impôt, alors que les radios communautaires ne produisent pas beaucoup d'argent. Ça, c'est vraiment une grande part de responsabilité au niveau de l'État. Mais aussi, le fait que l'État puisse revoir les paramètres fiscaux, surtout des radios associatives et communautaires, pour nous permettre de bien évoluer en payant, bien sûr, nos taxes et impôts en tant que radio citoyenne. Au-delà de tout, nos radios de l'Est souffrent parce qu'il y a insécurité là-bas. C'est la sécurisation aussi et des journalistes et des médias, notamment les médias communautaires qui sont dans des villages qui parfois ont des difficultés sécuritaires.
La communauté doit contribuer, mais pas seulement la communauté. Il y a une grande communauté dont on a parlé. Cette communauté qui doit contribuer pour le fonctionnement des radios communautaires, c'est laquelle?
Moi, j'appelle ça la société des auditeurs. La communauté devra aussi contribuer pour que la radio communautaire puisse émerger, puisse fonctionner. Donc, l'ancrage communautaire de la radio permet à celle-ci d'avoir aussi quelque part de moyens pour sa survie. Au-delà de ce que les bailleurs, les partenaires, et l'État pourra éventuellement donner sous forme d'aide directe ou indirecte à la presse en général, notamment aux radios, tout cela permettra à ce que la radio puisse avoir quand même une certaine viabilité économique.
Cette journée journée s'est célébrée chaque année. Et pour terminer, quel objectif la Fédération des radios de proximité du Congo souhaite évaluer l'année prochaine et se dire on a réussi au moins tel objectif?
Pour nous, le grand combat que nous avons mené depuis tous ces temps, c'est d'abord la reconnaissance juridique de la spécificité des radios communautaires. Si déjà l'État congolais reconnaît cette spécificité des radios communautaires, nous nous dirons, voilà, on a atteint un objectif. En second lieu, c'est la fiscalité. Nous sommes vraiment coincés par les taxes et impôts qui sont, entre guillemets, imposés aux radios communautaires, qui malheureusement sont considérées jusqu'à aujourd'hui comme des radios privées. Donc si on arrive à l'année prochaine et qu'on atteint déjà ne fût-ce que ces deux objectifs-là, nous nous dirons heureux. Au-delà de moyens qui peuvent parfois freiner certaines radios, les moyens techniques, les moyens financiers, en tout cas, au-delà de ça, si nous atteignons déjà ces deux-là, pour nous, nous dirons ça va.
Rigobert Malalako, merci.
Merci, Monsieur Fulbert.
Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.